France Inter.
La danseuse étoile Dorothée Gilbert fera ses adieux à l'Opéra de Paris en octobre prochain. L'occasion pour nous ce soir d'évoquer sa trajectoire, sa détermination, son amour de la danse, ses projets et quelques grands moments de sa carrière qui est loin d'être achevée. Avec Guillaume Diop, elle vient d'interpréter Le Parc, chorégraphié par Angelin Preljocage, spectacle dont elle reprendra un extrait avec Hugo Marchand les 18 et 19 avril prochains sous la pyramide du Louvre. Elle rentre tout juste de voyage dans le cadre du programme L'Opéra en Guyane, lancé par l'Académie de l'Opéra de Paris en 2022, à l'occasion duquel elle a dansé du Rudolf Nureyev et du Roland Petit. En mai prochain, elle sera Marguerite au Palais Garnier dans le ballet La Dame aux Camélias du danseur et chorégraphe américain John Neumeyer. Pour ceux qui voudraient se plonger plus en détail dans son univers, citons l'ouvrage Étoile, autobiographie illustrée par les photos de son époux James Bort, utilisée pour la préparation de notre entretien. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Dorothée Gilbert.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Le regard des enfants après le spectacle en Guyane.
Ah oui?
Ouais.
C'était tout public ou c'était pour les enfants?
Alors, il y avait une générale où les enfants, tous les enfants étaient là. Et leur réaction pendant le spectacle, c'était génial. Parce qu'ils sont très expressifs. Et ils parlent, ils rigolent, on entend des exclamations, ils chuchotent, qu'est-ce qui se passe? C'est trop mignon.
Alors je nous mets un peu dans l'ambiance. La musique du Rendez-vous, pas de deux, chorégraphié par Roland Petit et composé par Joseph Cosma. Vous avez reconnu puisque ça a été repris en chanson. Et je suis avec Dorothée Gilbert qui revient tout juste de Guyane où elle a dansé ce pas de deux devant donc des enfants qui vous ont fortement enthousiasmé par leur réaction.
Voilà, et surtout quand je tue le garçon à la fin.
Ah là, ils étaient contents.
À la fin du pas de deux, oui. C'est ça qui avait de drôle. Toutes les filles étaient ravies.
Et alors, est-ce que vous avez aussi dansé la Bayadère?
J'ai aussi dansé la Bayadère, le solo.
Nureyev et Minkus?
Oui.
Même réaction?
Un peu moins, c'est un peu plus tranquille.
D'accord.
Là, c'est un peu, c'est un peu plus tranquille, c'est moins expressif, on va dire, que Rendez-vous. C'est vraiment... Puis, en fait, les enfants, dès qu'il y a un peu de séduction ou des bisous, etc., ils sont très, très réactifs. Alors là, pour le solo, j'étais toute seule, donc il n'y avait pas de bisous. Donc c'était un peu moins réactif.
Est-ce que vous avez parlé avec des jeunes qui sont venus vous voir? Est-ce que vous avez suscité des vocations?
Alors, susciter des vocations, j'espère. Mais on parle avec les jeunes, on a des temps d'échange où ils peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent, où on leur parle un peu de notre parcours pour essayer de les inspirer, de leur montrer qu'on ne vient pas tous de Paris, qu'on vient
vous venez
d'ailleurs. Moi, je viens de Toulouse. Et puis, en général, en fait, on se rend compte, tous les danseurs qui m'accompagnent, ils viennent de Rennes, de Nantes, en fait, partout en France. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus proche que la Guyane, mais ça aussi, ça leur montre que finalement, on ne vient pas tous de Paris.
Alors on découvre tout de suite votre choix musical, c'est Théodora qui a le vent en poupe en ce moment, des mythos.
Oui.
Alors pourquoi ce choix incroyablement contemporain?
Parce que c'est ma fille qui m'a fait découvrir cette chanson.
Elle a quel âge?
Elle a 12 ans, depuis le 4 mars là. Donc voilà, et on a regardé le clip avec mon mari, et j'ai trouvé ça super original et un vrai univers artistique qui est complètement différent de tous les autres clips qu'on peut voir en général. Donc ça m'a vraiment interpellée. I like the way you move, I like the way you're dancing. I like the way you groove, I like the way you're dancing. Je m'appelle Natalia. Je me dis je t'aime, il me parle de famille.
Il me dit de la marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir, oui, y en a. Mais on m'appelle Madame Caillou, cœur rebelle et sans cahier. Ça compte pas, belle maison cahier. Je flexé déjà sans carrière. Cette chip non bah ouais, c'est carré. Comme maman, j'aime les pierres taillées.
Votre choix musical, Dorothée Gilbert, Théodora des Mythos.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec la danseuse étoile Dorothée Gilbert. Et alors, non, mais je suis obligée de le dire, pardon, là je sors totalement de mon rôle, mais vous êtes incroyablement sympathique.
Ah, c'est gentil.
Vous avez un grand sourire depuis le début de notre entretien et vous me donnez envie de vous sourire en retour et je vous trouve très sympathique.
C'est le soleil de Toulouse, c'est pour ça.
C'est vrai? Vous l'avez ingéré et gardé en vous depuis toujours?
Bah, et surtout qu'à Paris, on en a besoin. Hein.
Oui.
Parce qu'on ne le voit pas très souvent, alors il vaut mieux l'avoir avec soi au quotidien.
Si quelqu'un vous dit qu'il a le soleil de Paris à l'intérieur, méfiez-vous. Alors, vous allez vous faire vos adieux à l'Opéra Garnier en octobre. Êtes-vous triste?
Oui, quand même. Parce que on fait un métier incroyable. Qu'on a la chance de pouvoir interpréter des répertoires complètement différents, des personnages qui nous ont marqués. Et qui nous ont suivis aussi pendant toute une carrière. Donc là, toute cette dernière saison, je fais plein de dernières fois. Donc je suis toujours très émue. Je suis pas triste, je suis émue. Parce que je sais que ça va être la dernière fois que je vais interpréter Gisèle, ou que là, par exemple, récemment, c'était la dernière fois que je faisais un ballet en entier avec Guillaume.
Guillaume Diop,
voilà. Avec qui, j'ai dansé à ses débuts, quand il a été nommé étoile en Corée avec moi, à mes côtés. Donc, ça clôture des moments et des souvenirs. Donc, c'est très émouvant.
Quel est l'âge de départ à la retraite pour une danseuse étoile?
42 ans.
Et vous, vous avez négocié un an de plus.
Alors, c'est-à-dire que, oui, dans les textes, on peut terminer la saison de notre date d'anniversaire. Donc moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis née en septembre. Donc terminer la saison, ça veut dire aller jusqu'en juillet. Donc ça, c'est génial. Et après, le directeur de la danse, José Martinez, voulait pas programmer le ballet sur lequel je vais faire mes adieux, dont je tairai le nom parce que j'ai pas le droit de le dire encore. Il voulait pas le faire à la fin de cette saison-là, il voulait le faire au tout début de la saison d'après. Donc je dis, évidemment, ça me va très bien. Donc voilà pourquoi je continue un an de plus, j'aurai 43 ans quand je partirai.
Est-ce que vous... Enfin, j'ai entendu dire que vous prépariez un film documentaire sur cette période.
Oui, c'est mon mari qui le réalise. On filme déjà depuis un petit moment, donc il y a beaucoup, beaucoup d'heures de rush. Et en effet, on présente un film documentaire pour le cinéma, avec Jour de fête. Il a été racheté aussi par Disney, la plateforme. Donc voilà, ça sera pour sûrement début 2027.
Alors en 2020, vous disiez, en songeant à votre reconversion, qu'elle serait sans doute loin de l'opéra.
Oui, mais ça, j'ai pas changé d'avis.
C'est vrai?
C'est-à-dire que j'ai pas envie de tout de suite rentrer dans un métier qui va me prendre tout mon temps. J'ai envie de retrouver un peu de liberté aussi, parce que finalement, l'opéra, c'est quand même une grande maison, mais c'est aussi, quand on a une famille, c'est pas forcément facile, parce qu'on a seulement 10 jours de vacances en janvier, et qui sont très souvent au moment où les enfants reprennent l'école, donc c'est comme si...
Pendant toute l'année ?
Pendant toute l'année. On a 10 jours en janvier, et on a, par contre, un mois et demi l'été. Mais en vacances scolaires, je ne peux jamais faire les vacances avec ma fille, par exemple. Et donc, j'avais pas envie tout de suite de me remettre dans un quotidien aussi chargé, on va dire. J'ai envie de aussi pouvoir continuer un peu à danser, tant que je suis encore en forme, faire d'autres projets en dehors de l'opéra, et puis varier les projets.
Et aussi de jouer la comédie.
Et j'ai un peu fait déjà.
Ouais. Parce que vous dites, je suis lucide, j'adorerais être actrice, mais on cherchera plutôt une actrice qu'une ballerine.
Oui, c'est vrai. C'est toujours le cas. Mais là, récemment, on a eu la chance de tourner dans un film avec Guillaume Diop qui s'appelle Le fantôme de l'opéra, qui va sortir en septembre.
20th Century Fox presents Phantom of the Paradise, a gothic horror story.
What was that?
A beautiful love story.
Hold love, baby.
Like a circus.
A cinematic odyssey through the rock universe. From Greece to glitter.
Wow!
And beyond.
Bande-annonce du Phantom of the Paradise de Brian De Palma, adapté du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, qui a aussi inspiré le film à l'affiche duquel vous serez le 23 septembre, Dorothée Gilbert, Le Fantôme de l'Opéra d'Alexandre Castagnetti, aux côtés de Guillaume Diop.
Exactement.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce film ?
Bah non.
D'accord. Ah oui, c'est pour ça que vous rigolez avant. Je me disais, elle est vraiment trop sympa.
Non,
elle rigole même quand je suis pas drôle.
Non, je sais pas ce que j'ai le droit de dire encore ou pas.
Tout.
Non, on joue des rôles secondaires dans le film, mais qui ont leur importance quand même. Moi, disons que je mets en place le. Je commence à travailler le rôle que Deva Cassel, l'actrice principale, va reprendre une fois que j'aurai pété un câble.
D'accord.
Je serai partie. Voilà, donc elle reprend mon rôle, elle me remplace et c'est comme ça que l'histoire continue.
Guillaume Diop, vous avez également dansé avec lui de nombreux ballets, mais La Belle au bois dormant.
Oui.
À 41 ans, et vous disiez, je suis loin d'avoir l'âge du rôle d'Aurore, mais bon. Et alors, j'aimerais vous parler évidemment du vieillissement, puisque
oui.
Vous êtes très jeune. J'ai une jeune femme en face de moi.
Oui, bien sûr.
Si, c'est vrai.
Oui,
j'en
oui.
suis une aussi.
Vous êtes très gentille.
Non, mais j'ai à peu près.
On est loin.
Non, j'ai à peu près le même âge. Nous sommes des jeunes femmes. Et vous dites que vous choisissez mieux vos rôles, par exemple. Vous faites moins de sauts.
Oui. C'est-à-dire que, en fait. Quand on vieillit, on a moins cette énergie et cette réactivité dans les muscles qui nous permettent de faire des sauts, d'avoir de la rapidité dans les appels, de faire des appels secs et rapides. Plus on vieillit, plus on a besoin de prendre du temps, sinon les muscles, ils se cassent, enfin ils se déchirent. Donc, on choisit aussi un peu mieux son répertoire, dans le sens où aussi, quand on est jeune, on est très fort techniquement, on est peut-être un peu moins fort en termes d'artistique. C'est ça qu'il y a de bien avec la danse classique, c'est qu'après ça s'inverse. On est meilleur artistique parce qu'on a plus d'expérience et plus de choses à raconter, forcément. Et on devient un peu moins bien techniquement, mais on gagne en maturité et on sait mieux s'arranger. On voit moins certains défauts, etc. Donc finalement, ça s'équilibre tout ça. Mais en effet, certains rôles, on va les laisser tomber. Don Quichotte ou Paquita, où il y a vraiment que des sauts et que des choses techniques et pas trop d'interprétation, on va les laisser aux jeunes qui sont vraiment mieux dans ces rôles-là.
Est-ce que vos journées types ont évolué aussi ? À quoi ça ressemble la journée type d'une danseuse étoile ?
Par exemple, demain, je vais commencer par un rendez-vous chez le kiné. Mais ça, c'est toujours pareil.
Oui, ça, j'imagine.
Mais voilà. Après, j'ai un cours de danse de 10h45 à midi, une première répétition de midi à 13h et une deuxième répétition de 13h30 à 15h30.
Vous avez très peu de temps pour déjeuner.
Non, mon déjeuner, à des horaires décalés. où on n'a qu'une demi-heure pour déjeuner en général. Mais je me prépare un petit truc et puis je mange.
Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que ça mange une danseuse étoile?
De tout. Ah, on oui essaye. Alors, il faut essayer de bien manger, c'est-à-dire manger suffisamment de protéines, manger suffisamment de glucides, aussi des fruits, des légumes.
Les chips.
Chips, j'aime ça, j'en mange, mais disons que ça ne doit pas être l'aliment principal parce que ça ne nourrit pas les muscles ni le corps.
C'est pour ça que j'ai raté le concours de l'opéra.
Voilà, ça doit être ça.
Que je n'ai pas passé. C'est toujours une sorte de transe méditative pour vous, la danse? C'est comme ça que vous la définissiez avant?
Ça dépend des ballets, mais oui, c'est un moment suspendu. On vit une autre temporalité lors d'un spectacle. C'est-à-dire que le temps s'étire ou se contracte, il n'y a pas vraiment de... ça dépend des spectacles. Il y en a qui passent très vite, d'autres qui passent très lentement. Enfin, on est tellement dans le personnage que déjà on s'oublie aussi soi-même pour être l'autre, pour se glisser dans la peau de l'autre personnage et de voir comment lui réagirait en fonction de tout ce qui se passe, parce que ça reste du spectacle vivant, donc on reste ouvert à tout ce qui pourrait se passer et on réagit aussi en fonction de ce qui se passe. On ne plaque pas quelque chose qu'on a travaillé pendant un mois et puis c'est toujours pareil tous les soirs, et notamment en artistique. Pour que ça reste spontané et vrai, il faut que ça soit spontané et vrai.
Prenez cette fleur.
Que dois-je en faire?
Vous me la rapporterez.
Oui, mais quand?
Quand elle sera flétrie.
Et dans combien de temps?
Et fleur, elle vivra ce que vivent les fleurs, l'espace d'un matin ou d'un soir.
Je vous aime.
Dites-le encore.
1980, extrait du film La Dame aux Camélias de Mauro Bolognini. Dorothée Gilbert, en mai, vous serez Marguerite dans le ballet La Dame aux Camélias de John Neumeyer au Palais Garnier. Ça, vous pouvez nous en parler?
Oui, bien sûr. C'est un rôle que je rêve de danser depuis un moment. J'ai fait plein d'autres rôles dans ce ballet, le rôle de Prudence, le rôle de Manon, et j'avais très envie de pouvoir interpréter le rôle de Marguerite, parce que pour moi c'est vraiment un rôle hyper intéressant en termes de sentiments, d'abord parce que John Neumeyer, il est très fort pour ça, pour raconter des histoires et pour faire passer des émotions. Finalement, la technique est qu'un prétexte, c'est vraiment ce qu'on va raconter qui importe. Et donc c'est vraiment ça qu'on a envie de faire quand on vieillit, des histoires fortes, et techniquement on s'en fiche, même si les pas de deux sont quand même très compliqués, il faut avoir un très bon partenaire derrière parce que c'est pas simple.
Vous avez un bon partenaire?
Oui.
Vous pouvez dire le nom ou pas?
Oui, c'est Florent Mélac.
D'accord, vous êtes bon Florent Mélac. Vous avez évidemment reconnu un compositeur contemporain, Mozart, qui prête sa musique, sans le savoir, à Angelin Preljocage, qui chorégraphie Le Parc, un ballet que vous avez dansé récemment, Dorothée Gilbert, d'abord avec Guillaume Diop, et dont vous reprendrez un extrait les 18 et 19 avril sous la pyramide du Louvre avec l'autre étoile, Hugo Marchand, à l'occasion de l'exposition Michel-Ange Rodin, Corps vivant, dans laquelle le Louvre accueille 8 danseurs du ballet de l'Opéra.
Oui. C'est génial, je trouve, qu'on recrée cette collaboration avec le Louvre. Il me semble qu'il y a quelques années, enfin, il y a même beaucoup d'années, parce que je ne l'ai pas connu, et pourtant ça fait quand même très longtemps que je suis à l'Opéra, les danseurs faisaient des spectacles dans la cour carrée du Louvre, en été, quand il faisait beau.
Ça devait être beau.
Ouais, ça devait être beau. Donc je trouve que c'est chouette que les deux maisons se retrouvent.
Vous dites au sujet de vos partenaires très fidèles qui sont Guillaume Diop et Hugo Marchand à la scène, l'un est le soleil et l'autre la lune. Vous pouvez développer?
Oui, Guillaume, ça se voit en fait, non? Il n'y a même pas besoin de...
Non, qui est le soleil et qui est la lune?
Si, Guillaume est le soleil, il est jeune, il est toujours très rayonnant, très solaire. Et Hugo, il est plus tourmenté, il est plus sombre, il est plus...
Vous dites même dans plusieurs interviews, vous dites « il est chiant comme moi ».
Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on est très exigeants tous les deux dans le travail. Mais c'est ça aussi qui nous rassemble, c'est-à-dire que tant que ça ne sera pas comme on veut que ce soit, on va refaire et on va s'acharner. Donc on est un peu chiant, oui.
Ou plutôt exigeant, oui, voilà. Excellent.
Non, mais ça, oui, mais
on va en reparler de la détermination.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Dorothée Gilbert, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes de Toulouse et vous avez été dans une famille où vous avez été adorée et chose rare, votre famille vous a suivi,
oui,
pour la réalisation de votre rêve à Paris.
C'est ça.
Votre père s'occupait d'un atelier de confection de blouses hérité de son arrière-grand-mère avec votre mère.
Oui, c'est ça. Donc c'est l'arrière-grand-mère de ma... Enfin, c'était mon arrière-grand-mère, c'était la grand-mère de ma mère, qui était immigrée espagnole et qui a créé cette entreprise de blouses quand ils sont arrivés à Toulouse. Et ce sont mes grands-parents qui ont repris. Et eux, ils faisaient de la vente sur les marchés, parce qu'à l'époque, tout le monde portait des blouses, hein. Tout le monde portait des vêtements de travail. Et puis mes parents, après, avaient repris et eux, ils travaillaient plus avec des crèches ou avec des entreprises de nettoyage ou des choses comme ça. Mais et donc, j'ai rompu le... J'ai rompu la continuité de l'entreprise familiale. Mais bon, ils s'en fichaient. Hein. Ils m'ont jamais dit, il faut que tu reprennes l'entreprise. Et encore heureux, parce qu'avec la concurrence, de toute manière, internationale, c'était voué à l'échec.
À 6 ans, vous avez fait vos premiers pas de danse dans une école de quartier. À 7 ans, Conservatoire Régional de Toulouse. Est-ce que c'était un souhait de votre part ou vos parents s'étaient dit, tiens, on va la mettre à la danse classique comme on fait souvent avec les petites filles?
Alors, c'était plutôt ça, la deuxième. C'est-à-dire, comme... ma mère faisait un peu de piano à la maison et je bougeais tout le temps. Donc, en effet, ils m'ont dit... ils m'ont inscrit dans un cours de danse de quartier. Puis, voyant que j'aimais bien ça, ils se sont dit, bon, on va la mettre dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, ils m'ont mis au Conservatoire de Toulouse. Mais c'est suite à plutôt à un vrai spectacle que j'ai voulu en faire.
N'en dites pas plus. Extrait du ballet Gisèle, livret signé Jules-Henri Vernois de Saint-Georges et Théophile Gauthier, chorégraphie originale de Jean Corrali et Jules Perrault. Dorothée Gilbert, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe là, à ce moment-là?
Là, c'est la variation de Gisèle. Donc, sa mère ne veut pas qu'elle danse parce qu'elle a des problèmes de cœur. Et il y a tout le village qui est rassemblé parce que c'est la fête des vendanges. Et elle supplie sa mère de faire cette variation. Et donc, il y a le jeune homme qu'elle a rencontré qui est là, et elle fait cette variation pour le jeune homme qu'elle aime et sa maman qui a bien voulu lui donner l'autorisation de danser.
Ça va pas très bien se terminer.
Non.
Comme souvent dans les ballets.
Pas le dire.
Non, d'accord. Alors c'est à 10 ans que vous assistez au ballet Gisèle,
ouais,
avec Manuel Legris et Noëlla Pantois au Capitole.
C'est ça.
Et à l'issue de la représentation, vous vous dites, est-ce qu'on peut en faire un métier?
C'est ça. Oui, parce que j'ai vu des adultes qui faisaient ça. Qui interprétait des rôles, c'est-à-dire qui racontait une histoire. Moi, c'est ça surtout qui m'a le plus impressionnée. J'avais pas compris que les exercices qu'on faisait à la barre le mercredi après-midi, c'était fait pour raconter des histoires, mettre des costumes, être dans un décor avec un orchestre, etc. Donc, quand j'ai compris le but, j'ai dit, c'est ça que je veux faire.
Et vous avez dansé Gisèle plus tard?
Et j'ai dansé Gisèle plus tard. Alors jamais avec Manuel Legris, par contre, c'est dommage, sinon la boucle aurait été bouclée. Mais j'ai dansé avec lui quand j'ai été nommée dans ses étoiles.
Officiellement, vous êtes atteint par la limite d'âge, là, à l'opéra, c'est ça?
Oui, disons que j'ai eu un petit peu de supplément, on peut dire ça, parce que maintenant la retraite est à 42 ans.
42, oui.
Voilà, donc là j'ai 44 ans. Donc je suis un peu sous l'ancienne loi qui était jusqu'à 45. Donc c'est un petit peu compliqué, ça sont des affaires administratives. Mais disons qu'officiellement je dois partir de l'opéra de Paris. Voilà, c'est la date butoir, date limite, oui.
Elle est cruelle cette phrase, je dois partir de l'opéra de Paris. Vous venez de lui consacrer 30 ans de votre vie.
Mais à vrai dire, je ne pars pas complètement, parce que ce sont des adieux vraiment officiels à ma carrière de danseur étoile, mais en même temps, je suis déjà danseur invité dans le prochain spectacle, Les Intermittences du cœur de Roland Petit, donc je serai effectivement, ça peut paraître un peu bizarre pour les gens qui vont entendre ça, de faire mes adieux, et puis 15 jours après, je serai encore sur cette même scène, mais ce sera différent, voilà, je ne serai plus danseur étoile de l'Opéra de Paris, je serai encore invité, et on me fait sentir quand même que je peux encore un peu danser, donc c'est pour ça qu'on ne me met pas non plus, on ne me ferme pas la porte de cette belle maison. Bon, c'est une étape normale dans une vie de danseur, il faut faire des adieux à un moment, mais à vrai dire, pour l'instant, je suis assez serein.
Mais tout est organisé comme un ballet dans cette émission, c'est extraordinaire. C'est Manuel Legris qu'on entend sur France Inter en 2009 au micro d'Yves Calvi. Dorothée Gilbert, vous l'avez vu dans Gisèle, il vous a impressionné. Vous avez dansé avec lui, notamment dans le Lac des Cygnes, et vous l'avez choisi comme parrain à l'opéra, en tant qu'élève, le petit père, on dit.
Le petit père, exactement. Parce que quand je prenais des cours chez Jacqueline Finert le samedi, des cours de barre au sol, de temps en temps, il venait. Et donc, quand je le voyais, j'étais hyper impressionnée. Et je me disais, moi, j'aimerais bien que ce soit mon petit père. Et donc, je lui avais demandé et il avait dit oui.
Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais la voilà.
Quelle est la spécificité de votre enseignement ?
Je crois que c'est la barre au sol, cette fameuse barre au sol qu'a créée Boris Kniazev et qui permet d'être allongé, donc d'avoir plus ce poids du corps sur les pieds. Donc les mouvements se font d'une manière plus libérée et les sensations découvertes sont extrêmement importantes en fait pour le danseur qui a en principe une verticalité et à se débrouiller avec ses problèmes physiques. Un danseur sans poids du corps, je veux dire, c'est magnifique. Donc pour la base de la barre, c'est de découvrir des sensations chez le danseur lui-même, une possibilité de pouvoir s'informer sur ses qualités, sur ses manques, d'une manière moins agressive que tout ce qu'on a connu avant.
Eh bien, c'est justement celle que vous évoquiez il y a quelques instants, Dorothée Gilbert, Jacqueline Finert, sur France Culture, en 97, au micro de Gérard Manoni. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, parce que vous dites qu'il semblait à l'époque que ce fut l'une des seules à croire en vous.
C'est surtout qu'elle m'a fait énormément travailler mes défauts. Et la barre au sol, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que quand on n'est pas en dehors et quand on n'est pas souple, la barre au sol, il n'y a rien de pire. Donc j'étais face à mes limites tous les samedis matins. Mais ça m'a fait énormément progresser. Donc c'est grâce à ça aussi que j'ai pu continuer mes classes à l'école de danse. Parce que je n'étais pas du tout le génie des cours préparatoires. Hein. J'étais plutôt dans les moyennes.
Alors justement, mais en parlant de limites, j'aimerais aborder deux sujets. Le premier, c'est que dans l'archive dans laquelle on entendait parler Manuel Legris, il parlait de l'âge de la retraite d'un danseur étoile à 45 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Il s'est passé que les femmes étaient à 40 ans et les hommes 45 ans. Mmh. Et on a demandé la parité. Et donc c'est 42 ans tout le monde maintenant. Ce qui est assez injuste parce qu'en réalité, la danse des hommes n'est pas moins violente que la danse des femmes, au contraire. Ils doivent porter, ils ont des grands sauts, etc. Donc je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais c'était pas normal.
Écoutez, bravo, vous avez rétabli les choses.
Voilà.
Et alors, j'ai dit qu'on parlerait de votre détermination. Vous dites que vos échecs ont toujours été des moteurs, parce que vous avez échoué d'abord au concours d'entrée de l'école de danse de l'Opéra de Paris, et à chaque fois que vous échouiez quelque part, vous vous disiez « je vais vous prouver que vous avez tort, vous ne voulez pas de moi, je vais vous prouver le contraire ».
C'est vrai, ça m'a aidé énormément, c'est-à-dire que je pense que surtout le premier échec pour me présenter à l'école de danse, c'est-à-dire que je faisais de la danse, comme toutes les petites filles, je prenais les cours normaux et je me suis présentée à l'école de danse et j'ai pas été prise. Et là, on a été voir un professeur qui connaissait un peu mieux, parce qu'on sait pas pourquoi on n'est pas pris quand on n'est pas pris à l'école de danse. Donc, il connaissait un peu mieux les critères, on va dire, de l'école de danse et qui a dit à mes parents, mais votre fille, oui, il faut qu'elle travaille la souplesse, il faut qu'elle travaille en dehors, il faut qu'elle travaille le coup de pied. Elle a des qualités, mais là, il faut travailler, quoi. Et donc, je suis repartie à Toulouse avec toute cette liste de choses à travailler. Et donc, j'ai passé une année, parce que j'étais vraiment, vraiment motivée, j'ai passé une année à faire les cours des horaires aménagés, plus les cours des externes, plus des cours particuliers... une fois ou deux fois par semaine, entre midi et deux. Donc j'ai bossé comme une malade. Et j'ai été prise l'année qui a suivi. Et donc je me suis dit, en fait j'ai compris. Si je veux y arriver, il faut que je travaille. Voilà.
Et vous n'avez jamais été découragée au cours de votre carrière ?
Non.
Wow.
Non, parce qu'en fait je me disais que c'est comme si j'avais découvert la clé qui ouvrait toutes les portes. Après je me disais peut-être que ça sera plus long que pour certaines personnes. C'est-à-dire moi j'avais eu un premier échec et il avait fallu que je me représente. Donc ça avait mis 2 ans presque pour que je sois prise à l'école de danse. Mais finalement j'y étais arrivée. Donc je me disais même si c'est un peu plus long que les autres, je finirai quand même par y arriver. Parce que je sais maintenant que si je veux y arriver, il faut que je travaille.
Et vous êtes comme ça dans tous les champs de l'existence ou uniquement dans le travail ?
C'est-à-dire ?
À vous dire que si ça ne fonctionne pas, il suffit de juste... simplement faire plus d'efforts et
Oui, moi j'en suis persuadée.
Pour tout ?
Pour beaucoup de choses.
C'est vrai ?
Tout ce qu'on peut contrôler soi-même, oui.
Oui, ce qu'on peut contrôler soi-même.
Ben voilà, pas... c'est déjà pas mal, hein.
Ouais, mais vous pouvez pas contrôler un jury.
Non, on peut pas contrôler un jury, en effet, mais par contre, on peut contrôler la manière dont on va se présenter devant le jury. Si on est extraordinaire, le jury le voit.
Et vous l'avez été à force de travail.
Voilà, exactement. Enfin, alors, je dis, je pas extraordinaire, mais en tout cas, c'est aussi cet acharnement qui, le fait de me dire, vous verrez, vous êtes trompé, c'était un peu cette idée de me dire, je vais être tellement génial, tellement extraordinaire que ça sera une évidence, qu'il y aura plus le choix.
Alors là, certains pourraient se dire, elle a vraiment confiance en elle, et justement, ça n'est pas le cas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous êtes entrée à l'école de l'opéra, vous avez connu une grande solitude morale. J'imagine un peu de douleur aussi, non ? Ça vous fait rire ?
Une grande solitude morale.
Bah oui. Bah, on vous mettait dans des casiers, on vous secouait en tous sens.
Non, ça c'est parce que les autres enfants... et je comprends, hein, maintenant avec le recul, je comprends. C'est-à-dire que... À mon époque, il y avait très peu d'enfants qui étaient externes, c'est-à-dire qui rentraient chez soi pour aller dormir. Il devait être 10 dans toute l'école. Mais sauf que, je sais pas, on est peut-être 200 enfants à l'école, donc c'est énorme, même peut-être 250. Et il y avait 10 externes, dont je faisais partie. Et quand les enfants donc, me disaient « Mais d'où tu viens pour être externe ?» Je disais « Toulouse ». Les gens, ils étaient choqués. Et les enfants, ils étaient choqués parce que la plupart habitaient Paris et ils étaient internes. Et donc, je pense qu'il y avait aussi une jalousie et c'est normal.
Est-ce que vous en avez souffert de cette jalousie au fur et à mesure de quand vous avez monté tous les échelons jusqu'à Étoile ? J'imagine que ça suscite des jalousies.
Oui, mais non, parce que c'est plutôt bon signe si on suscite des jalousies, non ?
Ça veut dire qu'on réussit.
Bah voilà.
Et là, c'est la nature humaine toujours aussi décevante. Où en êtes-vous avec votre image physique ? Parce que vous dites qu'il y a même un professeur... Il y avait un professeur qui vous piquait les fesses avec une broche... Dans les cours, il y en a aussi un qui vous a parlé, qui vous a conseillé, je vous cite, de raboter votre bosse sur le nez.
C'est la fameuse Jacqueline Finert qu'on a entendu parler tout à l'heure, mais c'est pour ça.
Ah oui, un peu fort de café ça quand même.
Non, maintenant ça va, je me suis réconciliée avec mon image.
Comment ?
Quand même à 40 ans, il
s'est étendu. Comment est-ce qu'on fait parfois toute une vie, on ne peut pas supporter ?
Non mais déjà parce que... J'ai eu la chance de finalement, de par mon métier, de croiser beaucoup de chemins de photographes qui ont pris des photos. Et puis mon mari maintenant est photographe. J'ai fait des émissions de télévision ou des choses comme ça. Donc finalement, c'est aussi une habitude. Finalement, on commence à s'habituer à son image et à se réconcilier petit à petit avec aussi quand on la voit à travers le regard de quelqu'un d'autre.
Mais on peut aussi voir du dégoût, enfin ce qu'on pourrait prendre pour du dégoût dans le regard de quelqu'un d'autre, c'est dangereux, on peut nous faire croire qu'on est...
Même j'ai eu que des regards bienveillants.
Et vous avez tout de même fait preuve de bravoure de votre côté, parce que vous ne vous êtes jamais plainte auprès de vos parents.
Oui, non, à l'école de danse.
Ah non, vous leur cachiez qu'on vous maltraitait, vous leur cachiez vos mauvaises notes.
Oui, parce que ma mère était trop stressée. Donc, en fait, j'avais pas envie qu'elle me stresse encore plus. Donc, je préférais pas dire la vérité. Donc, je disais que tout se passait bien. Mais finalement, ça m'a aidée. Hein. Ça m'a aidée parce que je pense que j'en étais convaincue, du coup, que ça se passait bien.
Et les relations amoureuses ?
Oula !
Ça a mis beaucoup de temps.
Ça a mis beaucoup de temps, ouais.
À cause des sacrifices qu'on fait quand on s'entraîne autant.
Ça, et puis parce que aussi, il y a quand même beaucoup de garçons qui n'aiment pas les filles dans la danse, qui sont plutôt homosexuels ou qui ne sont pas intéressés par les filles. Donc en effet, on se retrouve vite. Déjà, on est dans un cercle assez fermé. Moi, je l'étais encore plus parce qu'on avait déménagé et que j'ai pas de frère ni de sœur, donc j'avais pas les copains ou les copines. Enfin voilà, donc j'avais pas de jeunes, on va dire, à la maison. Qu'on côtoyait pas les enfants de l'école de danse. Donc je côtoyais que mon quotidien, c'était que les garçons de l'école de danse, j'en avais pas d'autres à l'extérieur. Donc ça a été un peu compliqué pendant longtemps.
Est-ce que l'opéra accompagne les danseurs quand ils prennent leur retraite ?
Oui. Oui, on a quand même des moyens de travailler, de faire des formations pour sa reconversion, etc. On est accompagné.
Dai cavalli a dondolo, bang bang, io sparo. siamo innamorati, correvamo per i prati, tu scherzavi insieme a me, bang bang, per ridere, bang bang, sparavi a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi al cuore colpirà.
Le standard de ce soir, Dalida, Bang Bang.
Dorothée Gilbert, qu'est-ce qu'on entend ?
Don Quichotte.
Encore du tandem Nourieff-Minkus. Et là, qu'est-ce qui se passe dans cette
scène ? C'est la variation du premier acte. C'est la première entrée de Kittery.
C'est le rôle que vous avez fait dans Don Quichotte ?
Oui, c'est le rôle titre dans Don Quichotte.
Quel mouvement ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous sautez, vous faites
là, oui, on saute.
J'allais dire des galipettes, on va voir que je ne m'y connais pas en danse.
On fait des valses, on fait des grands jetés, on fait des déboulés.
Des déboulés ?
Des déboulés. C'est quand on tourne sur soi-même avec les deux pieds là, comme ça, en avançant.
Ah oui, oui.
Voilà. Vous les voyez bien les déboulés ?
Ah oui, je les vois totalement, puisque vous faites tourner votre main tel un tourbillon fou. C'est très bien imité. Alors, dites-nous la différence entre... Puisque vous entrez dans le corps de ballet à 17 ans, et puis là, dans Don Quichotte, c'est après avoir été promu coryphée, je crois, c'était votre premier rôle de soliste.
Oui, sujet même, je pense.
Ouais. Non, alors justement, qu'est-ce que c'est coryphée, sujet, première danseuse, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?
Alors, ce sont des grades, c'est très hiérarchisé à l'opéra, donc il y a des grades, et on passe en concours de promotion en fonction des places qui se libèrent, des gens qui partent à la retraite, pour monter dans le grade supérieur. Donc il y a quadrille, coryphée, sujet, premier danseur, et quand on est premier danseur, on est nommé à la suite d'un spectacle, danseur étoile, par le directeur de l'opéra et le directeur de la danse.
Et ça, est-ce qu'on le sait ?
Non.
Qu'on va être nommé ?
Bah non.
Parce que vous, quand vous avez... Bon, attendez, je vais quand même mettre la musique sur que vous avez dansé quand vous avez été nommé. C'est Casse-Noisette, donc c'est encore du Nourieff. On met Casse-Noisette pour se mettre dans l'ambiance.
Ça, c'est la variation de la fée dragée.
Ah oui, la variation de la fée dragée, ouais. Mais orchestrale.
Bah, c'est-à-dire que nous, on le danse deux fois plus lent.
Ah oui ?
Ah ouais.
Donc c'est beaucoup plus difficile.
Non, c'est-à-dire que si c'était à cette vitesse-là, on serait incapable de faire tous les pas qu'il y a...
D'accord.
C'est beaucoup trop rapide, ça. Et alors... ça, je dis que c'est la version orchestrale, parce qu'en général, avec l'orchestre, c'est toujours plus rapide. Quand il n'y a pas la danse dessus. Quand il y a la danse, il faut ralentir, parce qu'il y a trop de choses à faire.
Bon, je l'ignorais. Nous sommes le 19 novembre 2007. Vous dansez sans costume, Casse-Noisette, parce qu'il y a une grève.
Surtout sans décor et sans... Alors, c'était sûr... Alors, il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas de rideau, et il n'y avait pas d'éclairage.
On ne voyait rien.
Et il n'y avait pas de costume, en effet, pour tout le corps de ballet, mais ils avaient quand même... les ateliers couture de Garnier étaient venus à Bastille pour nous habiller, Manuel Legris et moi, pour que tous les deux, au moins, on ait les costumes des rôles qu'on était censés interpréter.
Vous étiez terrorisée, c'est à l'issue de cette représentation que vous avez été nommée étoile, et donc vous l'ignoriez.
Ah bah oui. Mais d'autant plus quand ils sont montés sur scène, moi je pensais qu'ils allaient remercier le public d'être restés, parce qu'ils avaient le choix soit de rester, soit de partir. Parce que c'était pas un spectacle complet, évidemment. il y avait que la danse pure et l'orchestre. Il manquait tout le reste. Donc, mais tout le monde est resté parce qu'il y avait eu plein d'annulations de spectacles à cause des grèves, justement. Donc tout le monde est resté. Et à la fin, je pensais qu'ils allaient remercier le public et en réalité, ils m'ont nommé. Donc je m'y attendais vraiment pas du tout.
Est-ce qu'on peut parler du rapport au corps? Parce que vous avez eu deux graves blessures que vous racontez dans Étoiles. Vous avez trouvé la première très injuste. Vous pouvez rappeler ce que c'était?
Oui, j'ai eu une fracture de fatigue au deuxième métatarse du pied. Donc, une fracture de fatigue, c'est pas très grave. Normalement, en 6 semaines, ça commence à se consolider et puis ça, voilà, et puis on n'en parle plus. Sauf que moi, tous les mois, je faisais un scanner et ça bougeait pas. 2 mois et demi, ça bougeait pas. 3 mois et demi, ça bougeait pas. 4 mois et demi, ça bougeait pas. 5 mois et demi, ça avait toujours pas bougé. Je me disais, mais. Et combien de temps je vais attendre que ça bouge et c'est pas juste. J'ai pas encore, j'étais première danseuse, j'avais encore envie de danser. Je me disais, mais pourquoi moi? Alors qu'en plus, dès que j'ai eu une blessure, je me suis tout de suite arrêtée. Je faisais pas partie des danseuses qui dansaient en ayant mal, en prenant des antidouleurs, etc. Donc je me disais, c'est trop injuste. Et finalement, j'ai passé un autre scanner à 6 mois et ça s'était consolidé comme ça avec le trou. Ils appellent ça une pseudarthrose. C'est un peu un terme compliqué, mais en fait, c'est juste que mon os a pris une nouvelle forme, avec un trou.
Une métamorphose. Vous aviez 24 ans.
Et voilà. C'était juste, c'était l'année où j'ai été nommée dans ces étoiles. C'était les 6 mois entre, on va dire, novembre-décembre, et puis tout le début d'année jusqu'à, je sais pas, mars-avril.
Et en 2024, déchirure au mollet.
Non, mais après, j'ai eu plein de déchirures au mollet. C'était une par an, pratiquement, pendant au moins...
Et comment vous faites dans ces cas-là? Vous arrêtez?
C'est 6 semaines d'arrêt.
Ah, aussi, même aussi, en plein spectacle.
Oui, ça m'est déjà même arrivé sur scène, une fois.
Et vous êtes remplacée dès le lendemain par une autre danseuse?
Mais même dès le soir même. C'est-à-dire que je n'ai pas pu continuer le spectacle. Je suis sortie comme ça, les mains sur les hanches, jusqu'à la coulisse, qui était très 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 loin, parce que c'était à Bastille en plus. J'ai senti tout de suite que je m'étais fait mal. Et donc, il y a le danseur, mon partenaire, qui continuait à danser sans moi. Et puis après, il est sorti. Sauf que juste après ça, j'avais une variation et une coda à faire. Et heureusement, il y a une fille qui faisait le corps de ballet, qui était censée faire le rôle plus tard, qui était sujet. Donc, elle faisait aussi le corps de ballet. Et donc, ils l'ont sorti de scène et ils lui ont mis le costume. Et elle a fait la variation et la coda. Et elle s'est fait remplacer dans le corps de ballet.
Il y a des danseurs cadeau. Prêts à, ouais. Oui, à remplacer.
Peut-être
qu'ils attendent ça avec impatience.
Non, c'est dans les films et dans les livres.
Bon, en parlant de films.
Emma,
au centre. Oui.
Et ça fait combien de temps?
3 mois.
Et tu comptes arrêter quand?
C'est pas prévu ça.
Ça va aller pour ce soir? Vous êtes prête?
Oui, ça va.
Vous n'avez rien à me dire?
Stop!
Emma, tu fais quoi là? T'es avec nous? On reprend, deuxième variation.
2017, c'est vous qu'on a entendu Dorothée Gilbert dans le court-métrage Naissance d'une étoile de James Bort, que vous connaissez bien, avec Catherine Deneuve. Je cite la description du film, un film féministe pour affirmer que nous avons le droit de faire carrière et d'avoir des enfants. Et justement, c'est intéressant parce qu'on parlait de rapport au corps. Mmh. Et vous, votre rapport à votre corps a changé avec la naissance de votre fille en 2014.
Oui.
Pour la première fois, vous n'étiez pas dans un contrôle total et ça vous allait.
Bah oui, c'était une expérience totalement différente, c'est-à-dire qu'on se construit le corps, c'est-à-dire que quand on est danseur, on le sculpte. Alors on est millimètre par millimètre, évidemment, hein, on change pas du tout, mais on le travaille au quotidien et surtout toutes les transformations physiques qu'on voit, ce sont des transformations entre guillemets qu'on a voulu, c'est-à-dire étirer les muscles, travailler en longueur ou travailler plus le port de tête, etc. Donc pour allonger le cou, enfin voilà, donc toutes les corrections auxquelles on pense vont transformer notre corps. Et là, quand j'étais enceinte, mon corps se transformait sans que j'aie besoin d'y penser. Ça se faisait tout seul sans que je sois obligée de réfléchir ou de lui donner l'ordre de faire quelque chose. Donc c'était génial.
Et comment vous allez faire quand vous ne danserez plus à l'opéra pour garder la forme? Ça paraît prosaïque, mais c'est intéressant.
Non, pas du tout. Mais justement, je me demandais récemment qu'est-ce que je pourrais faire. Parce que je pense que, en effet, le côté un peu... performance et de repousser un peu les limites va quand même me manquer un peu. Donc je me disais, je sais pas pourquoi je me mettrais, je sais pas si je le ferais, hein, je me mettrais pas à faire des marathons, à courir, par exemple. Parce qu'au moins, il y a un but. je me dis, être dans une salle de sport et s'entretenir, oui, c'est sympa, mais finalement, il n'y a pas de la petite carotte. Moi, j'ai quand même besoin d'une petite carotte au bout, là. Mmh. Nous, la carotte, c'est les spectacles, c'est le public, etc. Là, pour me motiver, il va me falloir une petite carotte. Je me dis, bah, ça peut être ça.
Et alors, dernière question, puisque la plupart d'entre nous qui ne sommes pas des danseurs étoiles ou des danseuses étoiles, on se tient quand même souvent assez mal et souvent on est quand même la plupart du temps à passer notre vie sur un ordinateur. Je parle de moi, mais de nombreux auditeurs. Comment on fait pour allonger son cou ou bien se tenir? Juste une petite astuce.
Faut baisser ses épaules et avoir l'impression que la tête touche le plafond.
D'accord.
Une opposition. En fait, la danse, c'est que des oppositions. Il y a quelque chose qui monte et l'autre qui descend. Parfait. Les épaules descendent et la tête, elle essaye de monter et de toucher le plafond.
Merci beaucoup, Dorothée Gilbert.
Avec plaisir.
En attendant vos adieux à l'opéra et le film qui les documentera en octobre, vous danserez les 18 et 19 avril prochains sous la pyramide du Louvre, un extrait du Parc, chorégraphié par Angelin Preljocage avec Hugo Marchand. En mai, vous serez au Palais Garnier dans le ballet La Dame aux Camélias de John Neumeyer et vous serez à l'affiche du film Le Fantôme de l'Opéra d'Alexandre Castagnetti au cinéma le 23 septembre. Autre sujet sans rapport, chers auditeurs, vous pouvez tenter de faire partie des 24 jurés qui délibéreront pour le prix du Livre Inter sous la présidence de Laurent Mauvignier en envoyant votre candidature avant le lundi 16 mars à minuit, soit via notre site internet franceinter.fr ou par courrier à France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Ronan Mahé.